Les gens s'étonnent toujours que vous ne quittiez pas Paris l'été, sans comprendre que c'est précisément parce qu'ils le quittent que vous y restez. Je dédie ces quelques mots d'Henri de Monterland à tous ceux qui, en ce 14 juillet, ont fait le choix, ou pas, du chez-soi. Du chez-soi, mais en pas pareil, une sorte de vallée de l'étrange où on parcourt les mêmes rues, les mêmes lieux, les mêmes bars, sans rien reconnaître, à part les autres rescapés de l'été. Et ça, c'est l'assurance d'un lien ténu, mais puissant. Bonjour et bienvenue dans le Mac de l'été. On prend un petit bain de culture et on ouvre nos horizons ce soir. Avec nous, un peintre qui fait des œuvres stupéfiantes. Bonjour Guillaume Bresson.
Bonjour.
Vous êtes exposé à Grenoble en ce moment, où vos œuvres surprenantes de réalisme et de classicisme, on dirait du Poussin avec des personnages en pull à capuche, côtoient celles des grands peintres classiques du musée. Et j'ai envie de vous présenter ce soir quelqu'un qui, elle aussi, est passé par les beaux-arts, ne s'y est comme vous pas senti à sa place et en a fait un livre aussi stupéfiant que vos peintures, la jeune autrice de Carnes, Esther Théard. Et à 18h30, bien sûr, un petit panorama de la culture, quoi faire, où fêter le 14 juillet, dans son lit ou avec le clairon qui sonne, on vous donnera toutes les réponses. D'ici là, préparez les glaçons, sortez les serviettes, prenez un radis, on s'occupe du reste. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Marie Misset.
Guillaume Bresson, dans plusieurs articles sur vous, et admettons que ces vendeurs, on vous appelle le Caravage des banlieues. Ça vous met à l'aise, ce surnom? Il est facile à porter?
Alors, pas vraiment, mais c'est un surnom qui date un peu maintenant, parce que c'est lié à ma première série de peintures que j'ai peinte dans les années 2000. Donc c'est assez ancien et on dit
Caravage. C'était la série de peintures que vous aviez fait pour la sortie d'école des Beaux-Arts, tout
voilà,
simplement.
Voilà, c'est ça, et qui était inspirée de mon adolescence, en fait, à Toulouse, et pour laquelle, en fait, mes amis de Toulouse, de la banlieue toulousaine, avaient posé. Et c'est pour ça que le terme banlieue et le terme Caravage, c'est parce qu'en fait, je me suis pas mal, à cette époque-là, inspiré de la façon de traiter la lumière de Caravage, donc en clair-obscur. Et donc voilà, ça a été la formule Caravage des banlieues, mais c'est pas moi qui l'ai inventé.
C'est un peu resté quand même, parce qu'il faut bien admettre que ça, voilà, ça renvoie un petit peu, ça claque. Avant de se laisser happer par votre vie et votre œuvre, j'ai envie de savoir ce que vous faites un peu de vos étés, Guillaume Bresson, si ça sent plutôt les cigales, la mer ou l'asphalte. C'est l'interview haute saison. Est-ce que c'est une saison que vous aimez bien, déjà, l'été, Guillaume Bresson?
Oui et non. Moi, j'aime bien l'ambiance de l'été, mais en même temps, la grosse chaleur.
La moiteur ne vous intéresse pas.
Ouais, d'autant que je reste beaucoup en ville, plutôt.
Et vous habitez à New York?
J'habite à New York.
Ça pègue à New York.
Ça pègue.
Quand est-ce que ça commence l'été pour vous? C'est quoi le signe que ça y est, ça a démarré?
Moi, je ne m'en rends pas vraiment compte. Je m'en rends compte une fois que c'est arrivé, quoi, quand il n'y a plus personne, en gros, dans la ville.
Ça ressemblait à quoi vos étés enfants? Liberté, ennui, chaleur?
J'ai pas beaucoup de souvenirs de mes étés enfants, mais je pense que c'était plutôt famille, grands-parents.
Grands-parents, ouais. Plutôt que colonie de vacances. Qu'est-ce que vous faites pas en été que les gens adorent faire?
Partir en vacances. Ça fait très longtemps que je suis pas parti en vacances. L'été, pour moi, c'est un moment où je travaille.
Ouais. Votre moment préféré dans une journée d'été?
J'aime bien les soirées.
Quand ça s'étire un peu en longueur.
Quand ça s'étire un peu, quand ça se rafraîchit.
Guillaume Bresson, on a eu envie de vous replonger dans l'été de vos 20 ans. On est en 2002, Shakira chante Whenever, Wherever, l'attaque des clones sort au cinéma, le 113 fout la merde et Jacques Chirac prononce son fameux discours.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Depuis le moment où tu m'es apparu, chaque jour sans exception, j'ai pensé à toi.
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Tu t'es emparé de mon cœur et tu le mets au supplice.
Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Quand on entend cette phrase de Jacques Chirac, ça résonne évidemment avec les incendies à Marseille la semaine dernière, mais aussi Guillaume Bresson avec votre œuvre, celle qui a brûlé dans les incendies de Los Angeles, une œuvre que vous aviez mis 6 mois à peindre. Elle est très symbolique, cette histoire, puisque cette œuvre représentait un abri de fortune, une tente de SDF dans les rues de Los Angeles. Elle a brûlé chez l'acheteur. 20 ans après, est-ce que ça vous parle, cette alarme de Jacques Chirac?
Ça m'évoque, ça fait une sorte de deuil en fait. C'est aussi le résultat d'un travail que j'ai fait avec des gens à Los Angeles, où j'ai travaillé avec une association, avec des jeunes. Donc c'est beaucoup d'engagement et ensuite de travail à l'atelier, quoi, pendant des mois et des mois. Donc c'est vrai que quand ça part en fumée en 5 minutes...
Ça rappelle aussi effectivement les 6 mois qu'on a passé dessus ce temps-là. Alors sans parvenir à réveiller grand monde, donc en 2002, Jacques Chirac lance cette annonce, mais sur les ondes et dans les playlists FIFA, pendant ce temps-là, on découvrait la Britannique Naomi McLean Daly. Vous la connaissez peut-être mieux sous le nom de Miss Dynamite. On était en 2002 avec Miss Dynamite, c'était Naomi McLean Daly.
France Inter, le mag de l'été.
Guillaume Bresson, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes peintre. Vos tableaux sont immédiatement reconnaissables une fois qu'on les connaît. C'est des toiles hyper réalistes, presque des photos et en même temps qui font vraiment penser à de la peinture classique, composées avec une précision quasi chorégraphique. On dirait parfois des corps qui dansent, sauf qu'il y a beaucoup de tension aussi dans ces corps qui sont habillés de pulls en capuche, de shorts de sport, de vestes de survêt. Et souvent, parfois, en tout cas, dans des mises en scène de violences urbaines qui prennent place dans des parkings, en bas des immeubles. Des images très puissantes qu'on a pu observer à Versailles cette année, en écho aux peintures du 19e siècle de Horace Vernet, qui mettaient, elles, une autre forme de violence, celle de la conquête coloniale. En ce moment, on peut voir 30 de vos œuvres au musée de Grenoble, là encore, en dialogue avec des peintres classiques. Vous les rejoignez, ces peintres, par la maîtrise de votre art, par une technique vraiment très poussée, mais vous représentez des gens, des paysages qu'on voit pas dans ces grandes peintures classiques. Vous y alliez, vous, au musée, enfant? Vous avez été confronté à ces peintures très jeune ou pas du tout?
Non, pas du tout. J'ai découvert tout ça quand je suis arrivé à Paris, en fait. Parce que moi, j'ai commencé la peinture par le graffiti. Donc j'avais pas de culture artistique en arrivant aux Beaux-Arts de Paris.
Donc, oui, vous avez pas.
Donc... Je suis arrivé, j'ai découvert le Louvre à 20 ans en fait.
Donc ces peintures-là, c'est des vrais chocs esthétiques.
Ouais.
Ça vous explose à la figure en quelque sorte.
Ouais. Et puis j'avais pas de hiérarchie, c'est-à-dire que je me disais pas un Matisse c'est mieux qu'un Géricault parce que c'est plus récent quoi.
Du coup. Entre Matisse et Géricault, vous préfériez quoi quand même?
J'ai pas de préférence. Disons je prenais tout ce que je pouvais trouver quoi.
Vous l'avez dit, votre premier geste artistique, c'était plutôt le graffiti. C'est le geste ou c'est le résultat qui vous plaisait?
Ce que j'aimais bien, c'était le rapport entre les deux, parce que le résultat était complètement dépendant du geste, c'est-à-dire de la situation dans laquelle on allait taguer, quoi. C'est-à-dire, si c'était très risqué, on devait aller très vite. Et si c'était tranquille, on pouvait passer une après-midi entière sur un graphe. Donc,
et l'adrénaline, ça faisait partie des choses qui vous plaisaient?
Ouais, c'était bien. C'était la nuit, c'était illégal. On était adolescents, c'était bien.
Je crois que ça a un peu inquiété vos parents quand même.
Oui, parce que bon, on se fait arrêter du coup, alors ça cause des problèmes.
Oui, c'est ça, c'est plusieurs gardes à vue quand même, avec des bombes.
Pense que tous les gens qui ont fait du graphe connaissent ces petits épisodes.
Mais alors comment vous en êtes sorti du graphe? Si vous en êtes sorti, est-ce que ça vous arrive de temps en temps dans les rues de New York de signer votre nom?
Je sais pas si on en sort pas, enfin c'est pas une... C'est oui. Pas une drogue, mais c'est peut-être un peu une drogue. Mais en tout cas, j'ai commencé la peinture à l'huile assez tôt. Et en arrivant aux Beaux-Arts de Paris, je sais pas, le fait de changer de ville, me couper un peu des gens avec qui je taguais quand j'étais à Toulouse, a fait que je me suis plutôt concentré sur la peinture. Et en plus, en découvrant toutes les peintures que je connaissais pas quand j'étais adolescent, ça m'a fasciné et je me suis orienté vers ça, quoi.
Il y a quand même eu un regard assez bienveillant de vos parents, puisque si je comprends bien, vous initiez en garde à vue, se sont dit bon bah tant qu'à ce que vous maniez le pinceau ou la bombe, autant que vous appreniez à le faire. Donc c'est quand même comme ça que vous rentrez dans des cours de dessin et que
ouais, c'est ça.
Vous êtes un peu ébloui par la technique aussi.
Vous dites... Ébloui non, mais je me suis tout de suite intéressé au dessin du corps. Et donc arriver à représenter un corps, comprendre comment ça fonctionne, c'est des choses que j'ai commencé tout de suite en cours de dessin d'après modèle vivant. Et voilà. Ouais.
Et comment vos copains graffeurs du quartier de Rangueil à Toulouse, puisque c'est votre quartier, ils ont vu ce virage quand vous êtes revenu avec vos premières toiles ou en tout cas avec vos premiers essais des Beaux-Arts de Paris?
En fait, les amis que j'avais à Rangueil et qui ont posé dans les tableaux, c'était pas eux les graffeurs. Donc c'est eux que je voyais plus souvent et du coup ils étaient pas liés à ma pratique du graffiti.
Okay.
Les autres qui taguaient avec moi quand j'étais adolescent, je les ai pas vraiment beaucoup revus en fait.
C'est beaucoup beaucoup d'hommes et de corps d'hommes souvent musclés d'ailleurs, de corps en tension. Pourquoi il y a si peu de femmes dans vos œuvres?
C'est la réalité. On a passé notre adolescence entre garçons en fait, isolés. Et on aurait bien aimé qu'il y ait plus de filles, mais c'était pas le cas. Et du coup, moi, ce que je représente, c'est cette situation-là. Et puis, je peins ce qui est autour de moi. Donc, j'ai besoin de modèles. Je demande aux gens que je connais de venir poser. Donc, c'est eux. Et c'est eux avec leur façon de se comporter, leur manière d'être, leur goût vestimentaire. Le seul geste que j'ai fait, c'est de pas intervenir, de pas changer en fait.
Et on parlait tout à l'heure de votre surnom, le Caravage des banlieues, que vous devez notamment à votre peinture de fin d'année que vous avez mis de fin d'études que vous avez mis 3 ans à faire. Donc c'est une grande peinture assez monumentale. Ça on l'a pas trop dit pour l'instant, mais c'est quand même des grosses œuvres quoi, où on voit des corps d'hommes effectivement dans ce qu'on devine être une émeute, même si il y a pas de titre et ça on en reparlera tout à l'heure. Certains ont dit que c'était les émeutes du Mirail qui avaient eu lieu à Toulouse quelque temps avant.
Donc représenter des corps, c'est une chose, représenter une émeute, c'est autre chose. Là aussi, vous dites, c'est sociologique, c'est pour ça que je l'ai fait, ou il y a quand même quelque chose d'autre derrière ?
C'est plusieurs choses. Je pense que c'est aussi le fait de la rencontre avec la peinture ancienne, la peinture classique qui racontait des histoires. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais travaillé plusieurs années comme ça sur la représentation du corps, la morphologie, la sculpture, j'ai fait beaucoup de modelage et tout d'après modèle, j'ai vu en allant au Louvre, et j'étais un peu naïf, du coup je découvrais ça comme ça, j'étais stupéfait de voir qu'en fait en mettant deux ou trois corps dans un même espace, on pouvait raconter une histoire. Et raconter une histoire, pour moi, normalement, c'est avec du langage, avec la parole, quoi, ou alors au cinéma. Mais
le fait que ce soit figé et que ça fonctionne,
ça raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'en le regardant, on se raconte une histoire. Ça provoque, en fait, l'imagination qui raconte une histoire. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, l'idée, c'était d'arriver à faire un tableau avec plusieurs personnages dans un même histoire et faire une sorte de scène. Et c'était effectivement le moment où il y avait, en 2002, les émeutes à Toulouse. Et puis, de toute façon, il y a toujours eu des émeutes un peu tout le temps.
Partout.
En banlieue, ouais, partout. Donc, c'était un thème qui me correspondait bien. Et j'ai commencé à essayer de faire ça, voilà, au début avec deux ou trois personnages, quatre personnages, cinq personnages. Et en fait, j'ai travaillé sur ce tableau pendant plus de trois ans. Et ça a fini avec une grande scène où il y a une cinquantaine de personnages, une sorte de grande peinture, comme une bataille, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas forcément l'émeute du Mirail, c'est en même temps l'émeute du Mirail, en même temps les émeutes de plus tard, en même temps la Révolution française, en même temps mai 68. Enfin, c'est tout. C'est l'émeute en tant que.
Une émeute.
Que mouvement, voilà. Et que,
ouais, mouvement des corps, notamment. Ouais. Et justement, il était à Versailles, ce tableau, en face d'œuvre d'Horace Vernet. Donc, Horace Vernet, il a peint beaucoup les conquêtes coloniales, de voir cette perspective-là, de voir une violence qui vient d'un côté des dominants dans l'œuvre de Vernet, de chez vous plutôt des dominés. C'était une perspective qui a donné sens à la peinture, ou qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de mettre votre peinture dans cet endroit-là ?
Ça l'a mis dans une perspective historique. Donc ça, pour moi, c'était en le faisant, je voyais pas trop, enfin j'avais même un peu peur du résultat, parce que les peintures d'Horace Vernet sont quand même problématiques et très violentes et tout. Et donc j'avais un peu peur de venir montrer mon travail là, mais en fait je me suis aperçu que ça les mettait dans une sorte de perspective historique, c'est-à-dire que quelque part, les violences coloniales représentées dans les tableaux d'Horace Vernet, c'était un peu la cause des violences en banlieue d'aujourd'hui. Donc les télescoper comme ça dans l'espace, c'était une façon de montrer une sorte de continuité historique de cette violence, et de montrer que cette violence, elle se perpétue, elle se reproduit et qu'elle circule.
Une généalogie de la violence, c'est vraiment l'effet que ça fait, et c'était vraiment extrêmement malin de vous mettre, vous, en face d'Horace Vernet dans le musée de Versailles.
Ah, merci à Christophe Le Ribot qui a lu.
Très malin, bravo Christophe. Il y a aussi les non-lieux qui vous parlent, mais on va en rediscuter tout à l'heure, parce que vous ne représentez pas que des gens, il y a aussi du décor. Ces peintures, vous les fabriquez seules, avec une immense minutie et surtout dans un temps long, un luxe qui me semble presque inaccessible aujourd'hui. Vous allez nous raconter comment vous faites. Ça vous rapproche aussi des grands maîtres de la peinture auxquels on vous confronte souvent. On va avoir le temps d'en rediscuter après le petit agenda culturel du Mac de l'été et surtout après cette merveille de la playlist de France Inter. C'est la nouvelle garde espagnole Amore avec Last Maria on Earth.
He visto ahora los mensajes.
C'était Last Maria on Earth, qui n'est pas tout à fait vrai puisque je suis là. C'était la Madrilène Amoré sur France Inter.
Le mag de l'été sur France Inter.
Le mag de l'été en mode vigiculturel, comme tous les soirs, c'est parti pour un petit tour des trucs à faire, à défaire et à refaire chez vous ou dehors.
Panneau.
Oui.
Obé. Non, c'est panneau.
Dans le panorama culture aujourd'hui, on se fait des expositions, on reste chez soi devant sa télé, ou alors on se fait un truc grandiose. Ça promet d'être magnifique à Paris. L'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France, coucou la maison, seront ce soir accompagnés par les plus grands solistes internationaux sous la Tour Eiffel pour un concert aux couleurs du Brésil. Et comme beaucoup de gens en France, vous n'êtes pas à Paris, que vous n'aimez pas la foule, ni venir très tôt sur le Champ de Mars pour être sûr de voir quelque chose, vous pouvez aussi tout écouter à la radio. C'est à partir de 21h sur France Inter.
Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit. Douillet, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas.
Si comme Georges, vous préférez votre lit douillet, profitez-en pour reposer vos jambes ce soir avant de vous faire une tournée nationale des expositions. En ce moment, on peut donc voir évidemment celle de Guillaume Bresson à Grenoble qui s'appelle En Regard, mais aussi la fantastique exposition de la photographe Nan Goldin qui en a profité pour faire un discours de soutien à Gaza lundi dernier aux rencontres de la photo à Arles, ou encore célébrer Cézanne à Aix-en-Provence qui va se parer des couleurs de la montagne Sainte-Victoire toute l'année. Et puis voilà deux expos qui méritent votre attention.
Corto Maltese, votre nom me dit quelque chose.
Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers. Rêveur, je ne parlerai pas, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, heureux, comme avec une femme.
Une incroyable exposition consacrée aux marins baroudeurs Corto Maltese, aux Salines, à Arques et Senans dans le Jura. Et puis alors d'ici le 23 août, vous pouvez d'ailleurs vous offrir une expérience complète dans ce cadre fou avec visite de l'expo, dîner et temps calme dans les jardins imaginés par ce génie de jardinier de Gilles Clément.
Quand la nuit est bien noire, il est possible de compter jusqu'à 3000 étoiles.
Pour mieux repérer ces étoiles, les astronomes d'autrefois les ont reliées sur leurs cartes par des traits imaginaires, qui dessinent des animaux, des choses ou des personnages. Il y a ainsi le lion, mais aussi le géant Hercule et le chasseur Orion. Ce sont les constellations.
Le Mucem à Marseille nous fait rêver avec cette exposition consacrée à ceux qui ont essayé de décrypter les messages du ciel de la Méditerranée. On part des premiers relevés du ciel mésopotamien antique en passant par l'astronomie arabo-musulmane médiévale, la révolution galiléenne, jusqu'à la passion de votre cousine, fille, père, mère pour l'astrologie contemporaine. Lire le ciel sous les étoiles en Méditerranée, c'est jusqu'au 5 janvier au Mucem à Marseille. Et puis si vous voulez définitivement rester chez vous, pas bouger d'un pouce, vous pouvez retrouver la nouvelle série de Lena Dunham, Too Much. La créatrice de Girls revient sur Netflix avec cette série comédie romantique plutôt réussie, des personnages plutôt attachants, ce qui à mon humble avis n'était pas le cas des filles de Girls. Et le conseil gratos du jour, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il y a un feu d'artifice là où vous êtes. En revanche, je ne peux que vous recommander d'aller au réjouissant festival d'art de rue, la fête des sottises, qui porte bien son nom. Ça commence le 18 juillet à Sally, en Béarn. Et attention, je retire un tout petit peu ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait gratuit, c'est à prix libre et conscient. Je vous laisse donc avec votre conscience. Avec moi ce soir à la table du Mac de l'été, c'est toujours Guillaume Bresson, grand peintre figuratif. Je vous invite d'ailleurs vraiment à aller voir sur Internet si vous avez Internet avec vous, à vous ranger sur le bas-côté si vous êtes en voiture pour regarder les œuvres, ces grandes fresques qui sont parfois assez monumentales d'hommes qui se battent, parfois dans des parkings, mais pas que. Il y a aussi cette magnifique de peinture de trois hommes qui tombent, où on voit aussi des pulls à capuche sur cette peinture, mais qui vraiment rappelle des peintures très classiques. Je pense qu'il est de bonne aloi ce soir de faire avec vous, Guillaume Bresson, l'éloge de la lenteur, car vous peignez très lentement. Vous travaillez seul, non?
Oui.
Vous êtes tout seul dans votre atelier?
Je travaille tout seul, ouais. Dans l'atelier, je suis tout seul, mais tout part d'un travail avec un groupe de modèles. Donc ouais. J'ai quand même des moments de collaboration.
Ah non, il y a votre père parfois qui est là aussi, non?
Oui, mon père, il
fait assistant.
M'a beaucoup aidé, il m'aide beaucoup. Ouais.
Il crée les couleurs?
Qu'est-ce qu'il fait? il intervient sur plusieurs aspects. Il peut poser aussi beaucoup pour moi, parce qu'il a un corps très particulier. Et il fait le travail préparatoire, il participe au dessin.
Vous connaissez vos modèles la plupart du temps? Vous avez dit que vous avez commencé avec vos copains au tout début. Qu'est-ce qui se passe quand un des modèles rentre dans votre atelier? Qu'est-ce que vous prenez en photo? Comment ça se passe une séance de pose?
En fait, au départ, c'était des gens que je connaissais, c'était mes amis, mes partenaires, ma famille, quoi. Et de plus en plus, je suis invité à travailler du coup avec des groupes. Ça peut être dans des lycées, dans des associations. Là, à Grenoble, du coup, au musée, on a fait une séance de photo avec les jeunes des quartiers de Grenoble. J'ai travaillé aussi à Los Angeles avec des jeunes. J'ai pu aussi intervenir dans des EHPAD. Et donc, il y a une découverte, en fait. C'est des gens que je connais pas. Et ça se fait en plusieurs temps. Il y a un premier moment de discussion où je vais présenter un peu mon travail, comment je fabrique un tableau, quoi. Je les introduis aussi un peu à comment on raconte une histoire, du coup, avec son corps, le langage corporel, qu'est-ce que son corps dit, qu'est-ce que les vêtements disent, le goût vestimentaire, enfin, tout. J'essaie d'aborder un peu tous les aspects. Je leur demande pas de venir habiller de telle ou telle façon. Ils viennent en général habiller comme ils veulent. Et une fois qu'on a un peu fait le tour, on fait une séance de photo avec un photographe où là, ça ressemble un peu à de la chorégraphie. C'est-à-dire je commence à leur donner des instructions un peu simples. Pour qu'ils s'habituent à bouger simplement devant l'appareil photo, puisque c'est pas des modèles professionnels. Et une fois qu'ils sont à l'aise avec l'appareil, qu'ils sont à l'aise entre eux, ils vont commencer eux-mêmes à se raconter un peu leurs petites histoires, ils font leur scénario, et si ça marche bien, ils arrivent à donner quelque chose de spontané qu'ils proposent, voilà, eux-mêmes. Et moi, j'essaie de capter, en fait, ce qu'ils proposent spontanément.
Vous donnez pas de trame narrative où en disant, on pourrait imaginer, on n'a qu'à dire que...
Je peux faire ça au début pour les aider un peu. Ouais. Moi, je peux dire, on n'a qu'à imaginer que c'est une discussion, ou on n'a qu'à imaginer que vous marchez dans la rue et que vous vous rencontrez, et qu'est-ce que vous faites, ou voilà, des choses comme ça, mais très simples, qui ne sont pas de l'ordre vraiment de la narration. C'est plutôt des petites mises en scène qui leur permettent de se mettre à l'aise.
Et je me suis demandé pour la peinture, donc il y a une peinture avec trois hommes qui tombent, elle est vraiment magnifique cette peinture, qui n'a pas de titre. Comment vous avez fait pour peindre ça, puisque c'est des hommes qui ont la tête en bas, qui sont entrelacés les uns avec les autres? Vous avez tout simplement retourné l'image?
Oui, c'est que du trucage, ouais. C'est-à-dire que dans cette série-là, j'ai voulu faire des chutes, et du coup j'ai dû trouver des solutions en fait pour faire poser le modèle de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il chute, alors qu'en fait il chute pas. Ça peut être juste, il est accroché à une échelle, et après moi au montage je coupe un bras, le bras qui s'accroche à l'échelle, pour garder que celui qui chute. Enfin, il y a des montages comme ça qui se font, et ensuite je joue avec
la recomposition.
Ouais.
Vous prenez parfois des mois pour peindre une toile, et encore des mois, c'est peu dire. Celle de votre fin d'études, on l'a dit tout à l'heure, vous avez mis 3 ans à la faire. J'imagine qu'à l'époque, vous ne mangiez pas tellement d'autres choses que des pâtes. Comment est-ce que vous faites pour vous accorder ce luxe de la lenteur, vraiment de prendre votre temps?
En fait, c'est lié au départ, je pense, au fait que, encore une fois, c'est lié à mon parcours. C'est-à-dire que j'arrive aux Beaux-Arts et je ne me suis pas bien intégré aux Beaux-Arts.
Donc pas trop de copains avec qui sortir.
Pas de copains, pas de copines. Et puis surtout une pratique qui était complètement marginale par rapport à ce qui se faisait à l'époque aux Beaux-Arts de Paris. Et du coup, l'isolement chez moi a fait que j'ai pu avoir l'occasion, enfin l'opportunité de travailler aussi longtemps sur un tableau sans que personne vienne m'empêcher. Et du coup, c'est là que j'ai pu développer ce travail. Et une fois que c'était développé, c'est ce que j'avais à proposer en fait quand je suis arrivé
devant le jury.
Devant le jury, puis plus tard avec les galeries dans le marché. Alors évidemment, ça m'a mis un gros coup de pression de travailler avec des galeries, parce qu'il a fallu trouver des solutions pour aller quand même un peu plus vite que 3 ans pour un tableau. Mais du coup, c'est toujours une sorte de rapport de force. Disons, après 20 ans, j'ai réussi à imposer mon rythme, mais pendant les premières années, les 10-15 premières années, c'était toujours une tension avec le monde de l'art, quoi.
Et justement, je me disais, du coup, si vous mettez 6 mois, vous devez pas avoir des gros moments de rush, des moments où on peut reparler de l'adrénaline que vous ressentiez quand vous graphiez, quand vous étiez ado. Ça doit aller lentement, quoi. Vous pouvez prendre votre temps.
En fait, non.
Vous finissez par faire des nuits blanches.
C'est toujours des nuits blanches à la fin. Au début, je suis un peu dans le déni et je vais travailler lentement, tranquillement les premières semaines. Et après, je me rends vite compte que la deadline approche très vite et finalement, ça termine dans le drame.
Ouais, ça termine dans les larmes, dans la douleur.
Dans les larmes, la douleur et le drame.
Vous avez quoi, à peu près 70 tableaux aujourd'hui?
Moins que ça.
Ouais. Parce que hier, par hasard, j'ai lu que Monet avait peint au moins 400 tableaux avec des nymphéas dedans et que ça représentait à peu près un quart de son œuvre. On en est donc à 1600 œuvres si je calcule correctement. Ça vous stresse pas, parfois, de pas être dans la productivité qui est quand même aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque de Monet, une injonction permanente? Il n'y a pas un truc où ça vous tenaille quand même un petit peu?
Non, au contraire, je suis. Ça me fait du bien à moi parce qu'on est dans une époque. À l'époque de Monet, il n'y avait pas Instagram. Donc, aujourd'hui, je trouve que ça fait du bien de produire en fait des images lentes, des images qui prennent leur temps et qui sont construites, quoi. Parce que ce ne sont pas des. On parlait de peinture qui ressemble à une photo tout à l'heure, mais en fait,
c'est
pas des instantanés. C'est pas une peinture qui reproduit une photo. En fait, c'est un montage, c'est une construction, une reconstruction de la réalité qui se fait très lentement et qui donne une image qui ensuite prend du temps à regarder. Donc, ça vient un peu en contradiction, en résistance par rapport au flux d'images qu'on a au quotidien, quoi.
Je trouve ça marrant parce que vous dites que ce qui vous a stupéfié les premières fois que vous êtes allé au Louvre, c'est qu'on pouvait raconter une histoire avec justement une image figée, que c'est ce que vous faites vous, quand vous peignez, et en même temps vous ne donnez pas de titre, donc vous ne nous donnez pas d'indice. C'est quoi cette volonté de surtout pas nous donner d'indice sur ce qui est en train de se passer? Même si au fur et à mesure il y a des trucs qui s'appellent la série Parking, mais vous y êtes pour rien.
Ouais, c'est des titres qui se font, qui arrivent spontanément. Mais oui, il n'y a pas de titre parce que c'est le rapport au langage, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé dans cette forme-là, c'était de raconter une histoire sans la parole, sans les mots, donc que le langage corporel. Donc finalement...
De se passer entièrement du langage.
Ouais, c'est ça, parce que maintenant, si je vais mettre même un petit titre, un petit bout de langage, un indice, ça va complètement fermer les possibilités d'interprétation du tableau. Et puis moi, tout le contenu de mon tableau, il part des modèles, c'est-à-dire du corps du modèle qui vient poser dans mon atelier, et je veux pas dénaturer ça avec un mot, avec un titre.
Vous trouvez que les mots, c'est nul?
Non, pas du tout. Moi, c'est pas ça. Mais
c'est pas assez?
C'est pas assez. C'est juste un autre rapport à l'histoire en peinture. Par exemple, les peintres classiques, eux, ils peignaient d'après une histoire. C'est-à-dire qu'ils avaient une histoire à raconter, qui préexistait au tableau. Donc, il y avait un titre, et le tableau devait représenter ce titre quelque part, où chaque modèle, en fait, devait rentrer dans le rôle qui était prédéfini. Moi, c'est l'inverse. C'est le modèle qui crée son rôle, quelque part, qui se représente lui-même, et qui ensuite est représenté dans le tableau. Voilà.
Balthus, que certains considèrent comme le peintre de la lenteur, lui aussi prenait son temps. On l'écoute au micro de Jean Dève dans l'émission Peinture fraîche sur France Culture, c'était en 2000.
Cette façon de poursuivre l'aventure figurative était une lutte constante?
Ah, mais on me détestait, les peintres. Il n'y avait que Picasso qui prenait ma défense. J'ai brouillé avec beaucoup de gens qui trouvaient que j'étais un peintre fasciste.
Vous aussi, on vous a traité de fasciste aux Beaux-Arts quand vous êtes arrivé, Guillaume?
Je ne sais pas si on m'a traité de fasciste, mais c'est de réactionnaire, rétrograde, des choses comme ça, ouais.
Parce que vous aimiez Poussin, Delacroix, etc., et que ce n'était pas du tout bien vu au début des années 2000?
Oui, parce que surtout, mon travail s'inspirait de ça, quoi. Ce n'est même pas de goût, c'est que j'avais une pratique qui faisait référence à des choses qui étaient avant la modernité.
Mais comme quoi, vous n'avez pas été le premier à être ostracisé pour avoir fait de la peinture figurative.
Ah oui, non, je pense que c'est commun à tous les peintres figuratifs de la deuxième moitié du XXe siècle.
En tout cas, ce choc de votre arrivée aux Beaux-Arts à Paris, ça m'a donné envie de vous présenter quelqu'un. Elle s'appelle Esther Teilhard. Je vous lis une phrase qui décrit l'arrivée du personnage de son roman Carne aux Beaux-Arts de Cergy. Les Beaux-Arts de Cergy ressemblent à une société à l'envers. Un squat où la déglingue est bossée à la chaux. Le livre, c'est Carne, l'autrice, c'est Esther Teilhard. On en parle dans quelques minutes avec elle, mais avant ça, on se détend et on écoute Celia Wa avec Démounage.
apprend d'y faire. Visuelle ligne avancée, de loin ça parfume. Oh là là, j'en passe. Vous autres, nous c'est ta Chine. Sans parole maquillée.
Inter. Le mag de l'été.
On est toujours avec le peintre Guillaume Bresson, on s'approche de la fin de l'émission. Et Guillaume, j'ai envie de vous présenter quelqu'un qui ne peint pas. Non, elle utilise les mots, justement ces mots que vous voulez pas mettre dans vos peintures. Son premier livre s'appelle Carne, il vient d'être récompensé par le prix de la Ponche. Il est édité chez Jean-Jacques Pauvert qui renoue avec sa tradition sulfureuse en l'éditant. Autrement dit, elle peint elle aussi des corps, mais à sa façon. Et elle décrit notamment l'arrivée d'une Marseillaise aux Beaux-Arts de Cergy. Alors c'est pas les Beaux-Arts de Paris, vous, c'est là que vous étiez, Guillaume Bresson. Je vous lis un petit bout de son arrivée aux Beaux-Arts de Cergy à Esther Teilhard. Les Beaux-Arts de Cergy ressemblent à une société à l'envers, un squat où la déglingue est bossée à la chaux. Les acteurs, c'est les recalés d'entrée, PD, trans, asexuels, hermaphrodites, intersexes, non-binaires, qui aiment baiser n'importe quoi ou rien du tout. Du clan, des corps qui tiennent moitié droit, rampants, courbés à gauche, horizontaux. Pronoms en tout genre, prénoms qui changent d'un jour à l'autre. Le bâtiment ressemble à une piscine et ses étudiants aux peaux de pied mortes qui flottent à la surface. Il y a une centaine d'élèves, les trois quarts ont rejeté leur genre de départ. Ici, le punk, c'est celui qui est resté accroché à son appareil génital. Bonjour Esther Teilhard.
Bonjour Marie, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Félicitations pour le prix littéraire de la Ponche que vous venez de recevoir, mérité à mon avis pour un livre à l'écriture au sulfate mais qui tape souvent juste. Vous avez un véritable art de la formule qui met par terre et comme Guillaume Bresson qui peint la violence, vous l'écrivez mais plutôt au féminin. Peut-être que dans un premier temps, Esther, vous pouvez nous dire ce que vous avez voulu décrire en évoquant aussi régulièrement dans votre premier livre Carne, l'arrivée de cette jeune héroïne marseillaise qui débarque aux Beaux-Arts de Cergy en banlieue parisienne.
J'avais envie de parler de corps et à défaut de pouvoir peindre parce que je n'ai pas le talent de Guillaume. Moi, je suis arrivée aux Beaux-Arts, mais j'étais une extrêmement mauvaise peintre. J'ai décidé de croquer avec les mots les corps que je voyais qui étaient à la fois magnifiques et dégoûtants, qui étaient rampants, qui étaient tordus dans tous les sens et qui étaient assez différents des corps marseillais avec lesquels j'ai grandi et que je connais bien. Des femmes à la plage, des cagoles marseillaises, les grosses femmes dorées en train de se dorer la pilule.
C'est ça vraiment qui vous a marqué en arrivant au Beaux-Arts à Cergy, ou en tout cas en banlieue parisienne, cette différence de corps. Vous partez du corps, vous aussi, comme oui. Guillaume Bresson.
Oui, oui, c'était l'usage du corps, la manière dont le corps était mis en mouvement, était décomposé. En arrivant au Beaux-Arts de Cergy, je pensais voir des corps en mouvement, des corps en train de peindre, des corps énergiques, des corps explosifs. Et je me suis retrouvée face à des corps extrêmement horizontaux, qui bougeaient peu, qui étaient très lents, et qui ressemblaient finalement un petit peu aux corps marseillais que je connais, qui sont des corps de languissants et qui errent et qui ne font rien, qui tournent en rond sur eux-mêmes.
C'est quelque chose qui vous parle, ce qu'elle est en train de raconter, Esther Théard, Guillaume Bresson?
Ah ouais, complètement. C'était une autre époque, hein, moi, mais le décalage en arrivant à Paris, dans le milieu des Beaux-Arts, en venant de Toulouse, c'était la même découverte d'autres corporalités comme ça qui...
Est-ce que vous ne vous décrivez pas aussi l'un comme l'autre la violence intrinsèque à Paris intramuros? Alors je dis intramuros, mais en l'occurrence vous parlez des Beaux-Arts de Cergy, Esther Théard, ou un certain Paris en tout cas, quand vous évoquez vous ce sujet, Esther Théard?
Oui, bien sûr, c'est la violence du monde de l'art parisien qui a ses propres codes, ses propres règles, et qui fait bien sentir quand on n'est pas dedans, quand on n'a pas grandi dedans, qu'on est à côté de la plaque et qu'on n'a pas les codes. Et la meilleure manière de s'en tirer, je pense, c'est de faire comme Guillaume, c'est de se retirer dans son propre atelier ou alors d'écrire un bouquin un peu discrètement à l'abri de tous ses corps. Parce que sinon, on se fait complètement bouffer, rogner par ce monde. Difficile à pénétrer, on va dire.
Ouais, vous dites que c'est comme partir avec un manuel où on n'a pas la notice. Vous avez consacré, vous, une partie de votre œuvre au monde de l'art aussi, Guillaume Bresson. En tout cas, vous l'avez dit dans Transfuge, vous avez dit ça aussi, c'est un monde qui me fascine un peu, mais un peu pour les mêmes raisons qu'Esther Théard. Parce que vous ne compreniez pas à la base.
Ouais, c'est ça. C'est un monde qui fonctionne sur le principe de la distinction. Donc, qui peut être, comme dit Esther, en fait, très violent, c'est-à-dire peut vous, complètement vous repousser quand vous n'avez pas les outils, les codes pour naviguer dedans. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai tout de suite eu ce réflexe aussi de me...
Retirer en vous-même.
De m'auto-éliminer quelque part, quoi. Mais c'est vrai que plus tard, en comprenant un peu mieux la situation, je trouvais ça aussi intéressant de travailler sur ça, quoi.
Vous dites, Esther Théard, dans votre roman, vous dites que c'est un vrai boucan marseillais. Ça tonitrue, ça parle fort, ça gueule, ça fait n'importe quoi. Vous préférez quand c'est explosif comme ça? En tout cas, vous le décrivez particulièrement bien.
Ah, le boucan, évidemment. Le boucan, c'est un matériau brut de création, mais quelque chose qui me plaît à Marseille, qui me fait rire et à la fois qui m'effraie. C'est le rapport de certaines personnes dans la rue où parfois vous observez de loin deux personnes et vous n'arrivez pas à savoir s'ils sont en train de se bastonner ou de s'étreindre, de se faire une déclaration d'amour extrêmement puissante. En fait, on ne sait jamais où la violence se situe dans tout ça, parce que la violence fait aussi partie de la tendresse à Marseille. Donc c'est une forme de rapport ambigu et complexe à la violence qui est partout, qui est dans les gestes, dans la langue, dans les mouvements.
Oui, c'est ce rapport-là à la violence que j'ai trouvé intéressant, parce que quand, dans mes premiers tableaux qui représentent cette violence, la séance de photos qu'on a fait, en fait, c'est fait un peu plus comme un jeu que comme un réel désir de faire une bagarre, quoi. C'était vraiment s'amuser à la violence, quoi.
Pour finir cette émission, Esther et Guillaume, je vous garde tous les deux quelques minutes pour avoir un kit de survie anti-canicule, musée, livre, endroit avec clim. Vous allez nous aider. Un livre à lire l'été, Esther Théard, à part évidemment le vôtre, et sur une plage à Marseille par exemple.
Ah, bah il faut de la littérature un peu chaude. Il faut lire Henri Miller, Tropique du cancer. C'est chaud bouillant et c'est tout à fait en adéquation avec le climat.
Un endroit à visiter cet été, à part évidemment votre exposition, Guillaume Bresson, à voir au musée de Grenoble.
Moi, j'irai voir Ramelzi au Palais de Tokyo.
Oh, je conseille tout à fait cette exposition très, très étonnante d'un géant un peu oublié de la contre-culture américaine. Un livre que vous conseilleriez à une ado, Esther Théard?
Je conseillerais à un ado ou à une ado un livre un peu austère, un peu chiant, comme Adolphe de Benjamin Constant pour resserrer les vis et obliger à la concentration.
Pour lui donner vraiment très envie de continuer dans cette voie. Un peintre ou une peintre que vous auriez eu envie de montrer à un ou une ado, Guillaume Bresson, que vous auriez eu envie de voir plus jeune?
Ouais, j'aurais montré de la peinture classique pour montrer un peu comment se débrouiller avec son corps et qu'est-ce qu'on peut raconter avec son corps.
Et Guillaume Bresson, un livre que vous aimez particulièrement?
En ce moment, ce serait le cours sur la peinture de Deleuze.
Et vous, Esther Taillard, un peintre que vous admirez?
Un peintre que j'admire, James Ensor, pour ses fabuleuses fresques sur la vanité et la folie humaine et ses couleurs complètement démentes.
Retrouvez tous les conseils pointus d'Esther Taillard et Guillaume Bresson sur l'appli Radio France et le site, bien entendu. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé au MAC de l'été ce soir. Allez voir l'exposition de Guillaume Bresson au musée de Grenoble. Et si vous ne pouvez pas, allez voir en ligne ces peintures qui scotchent, qui donnent envie d'en voir toujours plus, de comprendre ce qui se passe sur la toile. Lisez Carme d'Esther Taillard sur une plage de Marseille, entourée de très près par d'autres serviettes. C'est un bon petit uppercut littéraire. C'était le MAC de l'été avec Tarana Touri et Louise Tempero à la préparation de cette émission, Lucie Lemarchand à la réalisation et Maxime Goudard à la technique. On se retrouve demain avec Marion Montaigne.